Oui, ce monde est bien plat. Quant à l'autre, sornette. Moi, je vais résigner sans espoir à mon sort. Et pour tuer le temps, en attendant la mort, je fume au nez des dieux de fines cigarettes. Jules Lafort. ans d'histoire. Il s'appelait Rodrigo de Jerez, parti en Amérique avec Christophe Colomb. Il en était revenu avec cette curieuse habitude indienne de fumer une plante encore inconnue en Europe, le tabac. Arrêté en 1498 dans les rues de Séville, Rodrigo de Jerez fut emprisonné pour sorcellerie. Seul le diable, croyait-on, pouvait sortir du feu et de la fumée de sa bouche. Et c'est ainsi que le premier fumeur européen fut aussi la victime de la première campagne anti-tabac de l'histoire. Il faut dire qu'en cette fin de XVe siècle, on ne comprenait pas bien quel plaisir pouvait procurer la fumée du tabac. Et personne n'imaginait que son usage se répandrait un jour dans le monde entier. Quand Christophe Colomb l'avait ramené d'Amérique, il faisait surtout tousser les sujets de la reine d'Espagne.
Que m'avez-vous apporté ?
Du tabac. On inspire sa fumée. Force stimulant.
Permettez à votre palais de goûter toute la saveur du tabac. Goûtez.
Et vous dites que c'est un vice indien. Je ne vois là aucun plaisir qui en ferait un péché.
Didier Dourisson, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, dans votre histoire de la cigarette que vous venez d'écrire chez Payot, vous rappelez comment, en effet, le tabac est arrivé en Europe, dans les caravelles de Christophe Colomb. C'était bien avant d'ailleurs que soient fumées les premières cigarettes, mais en même temps que la première campagne anti-tabac, dites-vous, qu'on n'a pas attendu la loi Evin pour se méfier du tabac. Sauf qu'à cette époque, ce n'est pas parce que le tabac était dangereux, mais parce qu'il était diabolique. Vous citez un auteur, un historien du XVIe siècle qui parlait d'un poison aussi pestiféré qui ne peut être qu'une invention du diable.
C'est vrai que pour un objet aussi léger, l'histoire de la cigarette est particulièrement lourde. En fait, le tabac a tout de suite été vu avec beaucoup de suspicion par les autorités, notamment les autorités ecclésiastiques. Rodrigo de Jerez, dont vous parliez, en a pris pour 10 ans dans les geôles de l'Inquisition, tout de même, pour avoir osé fumer dans la rue à cette époque, donc au tout début du XVIe siècle.
Et dès
le début, dès que les navires, les galions espagnols arrivent chargés de cette plante indienne, eh bien, ils vont être en quelque sorte suspectés d'apporter une herbe du diable. C'est comme ça qu'on va l'appeler, parce que les premiers usagers du tabac vont commencer par le fumer, à la mode indienne, justement, et du coup, faisant sortir de la fumée, voire du feu, de leur bouche et de leur nez, eh bien, ça a beaucoup inquiété les défenseurs, disons, de la morale chrétienne.
Et ça a incommodé un pape qui s'appelait Urbain VIII, et alors qui disait « Nous avons appris depuis peu que la mauvaise habitude de prendre par la bouche ou le nez l'herbe appelée vulgairement tabac s'est tellement répandue dans plusieurs diocèses que les personnes des deux sexes, même les prêtres et les clercs, en prennent partout, et principalement dans les églises de Séville. Ce dont nous rougissons en célébrant le Saint Sacrifice de la Messe, ils souillent les linges sacrés de ces humeurs dégoûtantes que le tabac provoque, ils infectent nos temples d'une odeur repoussante. » Et ce fameux pape, Urbain VIII, excommuniait même les fumeurs.
Ah oui, c'est allé très loin. On a même vu dans d'autres contrées, en Turquie, dans l'Empire ottoman, un calife couper les nez des fumeurs impénitents. Ça a pu aller très loin et dans d'autres sphères que la sphère européenne. Alors effectivement, l'excommunication d'Urbain VIII va durer quand même quelques décennies jusqu'au moment où le tabac fera véritablement société, étant imposé en quelque sorte depuis la cour royale de France.
Alors ça n'a pas empêché justement le tabac d'être fumé, mais alors pas du tout sous forme de cigarette. Il y a 3 siècles et demi qui séparent l'arrivée du tabac en Europe de la première cigarette. Entre-temps, vous le rappelez, Didier Nourisson, qu'est-ce qu'on fumait ? On fumait des cigares, hein, fabriqués à Séville. Ça a été le premier lieu par lequel le tabac a été importé. Puis ensuite, il y a eu l'Angleterre avec la colonie anglaise de Virginie. Et puis la pipe aussi, symbole de la révolution, de la liberté. On a chiqué aussi du tabac. Ça, c'était surtout dans la marine, où on le prisait comme le faisait Napoléon. Mais ces 4 modes d'utilisation du tabac qui n'ont rien à voir avec la cigarette.
Ah ben tout à fait. Bon, ce qu'il faut remarquer, c'est que chaque société sécrète son propre mode de consommation tabagique. Ainsi, les Espagnols vont continuer, malgré l'Inquisition, à fumer. Les Français vont très vite se mettre à la prise, du moins au niveau aristocratique, parce que ça permettait en quelque sorte une distinction sociale. Le petit peuple pouvant, lui, à la rigueur, chiquer, dans la bouche ou fumer dans la pipe pour les militaires. La chic aussi, c'était pour les marins qui avaient interdiction en quelque sorte de fumer sur les navires à voile et à vapeur.
En fait, la cigarette qu'on appelait le cigaret au début n'apparaît qu'au 19e siècle. Au début du 19e siècle, on appelait ça le cigaret. Et le cigaret ou la cigarette, qui est devenue la cigarette, c'était une cigarette, dites-vous, cousue main. C'est-à-dire, en fait, elle était roulée, la première cigarette.
Oui, on pense que ce sont les soldats de l'armée napoléonienne qui ont découvert, en quelque sorte, le mode espagnol de la fume en allant occuper l'Espagne pendant 8 ans au moment des guerres impériales. Et ils auraient découvert là-bas donc le cigare. Pour les plus pauvres, les plus modestes de ces grognards, ils ont dû rouler des cigares, enfin du tabac plus exactement, dans une feuille de papier ordinaire, et c'est devenu la première cigarette cousue main, comme on va l'appeler, c'est-à-dire roulée entre le pouce et l'index.
Alors ensuite, il y a quelqu'un qui invente, pour ces cigarettes roulées, qui invente le papier à cigarette. C'est un Français, un Perpignan, qui invente le papier à cigarette Nil, qui était fabriqué de manière industrielle.
Oui, alors c'est un dénommé Jean Bardin, qui était de Perpignan, donc c'est la Catalogne, mais française, et qui n'a pas eu loin à regarder de l'autre côté des Pyrénées, tout simplement, pour découvrir le papelito, le petit papier qui servait à rouler les cigarettes espagnoles. Donc il a inventé ou réinventé, on invente toujours des choses bien connues, donc il a réinventé le papier à cigarette et c'est devenu le papier Job, puisque entre le J et le B de Jean Bardin, on a mis un petit losange et le consommateur a pris l'habitude de lire un O à la place du losange.
Alors ça, c'était pour la cigarette cousue main, c'est-à-dire la cigarette roulée. Et puis très vite, à la fin du 19e, apparaissent les premières cigarettes industrielles. Et ça, il faut bien le dire, c'est une invention française.
Voilà, alors ça, c'est un directeur de la régie des tabacs qui était donc en charge des manufactures de l'État qui a eu cette idée, voyant justement que les petites cigarettes roulées main étaient populaires, étaient appréciées. Eh bien, il s'est dit, je vais en faire fabriquer par mes ouvrières de la manufacture du Gros Caillou à Paris. Il a réalisé cette opération en 1843 dans une soirée de gala offerte à la suite d'un tremblement de terre en Guadeloupe. Et ça a permis, puisque c'était en plus offert par la reine Marie-Amélie, femme de Louis-Philippe, eh bien ça a permis de populariser tout de suite la petite cigarette.
Et on passe donc à la cigarette toute faite, la cigarette effectivement industrielle, alors qui apparaît en France grâce à l'État et au monopole qui, avant de s'appeler la Saïta, s'appelait la Régie française et utilisait quelques grands noms du cinéma et de la chanson pour faire la promotion de sa production.
Ce que j'aime, c'est un bon cigare ou une cigarette en caporal doux que je fume toujours avec plaisir.
Comme l'excellent artiste Michel Simon, fumez le caporal doux, que ce soit les gauloises vertes, les celtiques dénicotinisées, les gitanes caporal doux en paquet de vin ou en boîte de sang, les cigares voltigeurs dénicotinisés en étui de 5 ou en coffret de 25, fumez tous le caporal doux de la Régie française.
Si j'étais une cigarette, tu me tiendrais entre tes doigts. Et sous le feu d'une allumette, tu me ferais flamber pour toi. Je voilerais tes plus tristes pensées, je brillerais sur tes plus doux espoirs.
Et c'était Eliane Embrun, Si j'étais une cigarette, et on a entendu Michel Simon en 1932 faisant la promotion donc des cigarettes de la Régie française, un monopole d'État depuis le 19e siècle, parce que l'État très vite a compris qu'il pouvait y trouver son compte à la vente du tabac, Didier Nourisson.
L'empereur Napoléon Ier a vite fait comprendre les bénéfices qu'il pouvait tirer de la vente du tabac et plus tard des cigarettes. Et effectivement, jusqu'en 1995, c'est-à-dire pendant près de deux siècles, le tabac en France sera monopole d'État pour la production, la fabrication et la distribution. Donc c'est assez impressionnant de voir comment l'État, finalement, s'est enrichi de la vente de ce tabac.
Tabac vendu donc cigarettes toutes faites, en paquet. Le paquet apparaît plus tard. Au début, ce qu'on vendait, c'était une espèce de fagot de cigarettes qui était enroulé par un ruban, Didier Nourisson.
Voilà, alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, les premières manufactures de tabac dans les années 1840 jusqu'au début du XXe siècle ont fabriqué des cigarettes à la main des ouvrières, et on rassemblait ensuite par fagots de vin dans ce qu'on appelait des bondons, qui étaient donc des paquets de vin enroulés dans un papier et tenus par une ficelle de couleurs différentes, suivant la nature du tabac. On vendait ça en bondons avant l'invention donc du paquet rigide que nous connaissons aujourd'hui.
Et des paquets qui étaient plus commodes peut-être à être transportés par les soldats, parce que si l'État fabrique et a le monopole de la cigarette, il s'efforce aussi d'en vendre, et d'une manière qui peut paraître insensée quand on y pense aujourd'hui, c'est tout simplement en donnant aux soldats, pendant la Première Guerre mondiale, des cigarettes, des paquets de cigarettes, si bien que le baptême du feu, c'était en même temps pour eux celui de la fumée, enfin de la fume. C'était le général Pershing, le général américain, qui disait « Pour gagner cette guerre, nous avons besoin de tabac et de balles ».
Alors, bon, c'est une habitude militaire qui remonte loin. Déjà, dans les armées de Louis XIV, on distribuait des rations de tabac de manière à distraire un peu les soldats de la vie de campagne et de la vie dangereuse du militaire. Donc c'est une habitude qui est restée bien sûr pendant la guerre de Crimée, terrible guerre de Crimée, et c'est à ce moment-là, en 1854, que l'empereur Napoléon III a décidé de distribuer systématiquement 100 grammes de tabac à ses troupes.
Alors le résultat, c'est simple, c'est que ça s'est poursuivi pendant la Première Guerre mondiale. On a dit que Verdun, ça avait été aussi la victoire de la gnôle et des cigarettes. Résultat quand même, vous donnez des chiffres, Didier Nourisson. En 1913, les Français consommaient 3 milliards 800 millions de cigarettes, et juste après la guerre, 10 millions, c'est-à-dire trois fois plus.
Tout à fait. Alors... Il faut savoir que le pinard et la cibiche, effectivement, comme on surnommait la cigarette, la cibiche, ont été considérés comme les vainqueurs. Les vainqueurs, d'autant qu'à cette époque, en 1910, est sortie la Gauloise, avec ce nom effectivement terrible à l'ennemi germanique.
10 milliards, j'ai dit tout à l'heure, 10 millions, c'est 10 milliards après la guerre, donc trois fois plus qu'en 1913. Et alors, la cigarette se démocratise, même les femmes qui jusque-là n'étaient pas des consommatrices le deviennent, du temps de la garçonne au moment justement des années folles.
C'est vraiment dans les années 20, effectivement, que les femmes vont se mettre à fumer de manière systématique. Auparavant, au 19e siècle, on avait quelques évaporées, on va dire, quelques émancipées qui s'essayaient à la cigarette ou qui s'essayaient au cigare, mais le cigare était quand même plus dur, plus rude. Donc, elles ont pris l'habitude, justement, de prendre des petits cigares, des cigarets qu'elles ont appelées cigarettes. Et on pense que c'est George Sand qui a donné ce nom aux cigarettes, donc la cigarette, grâce à George Sand.
La cigarette, donc, qui se répand dans le monde entier et surtout grâce au cinéma.
En 1910, les États-Unis produisaient 10 milliards de cigarettes par an. En 1930, on en produisait 123 milliards.
Que s'est-il passé entre-temps ? Trois choses. Une guerre mondiale, la diététique et le cinéma.
Le cinéma.
1927, naissance du cinéma parlant. Tout à coup, les réalisateurs doivent donner quelque chose à faire à leurs acteurs qui dialoguent. Cary Grant, Carole Lombard en allumine, Bette Davis, une cheminée. Et Bogart, tu te rappelles son premier film avec Lorraine Bacall ?
Oui, enfin non, je me rappelle pas.
Ah, elle passe la porte d'une démarche ondoyante. 19 ans, le sexe à l'état pur. Elle dit, quelqu'un une allumette.
Anybody got a match?
Et Bogie lui envoie les allumettes. La plus grande histoire d'amour du siècle. Qu'est-ce qui en est à l'origine? Une cigarette.
Thanks. Night.
Make yourselves home, boys. Cigarettes on the table over there.
All right.
2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet.
Et un couple mythique du cinéma, Lorraine Bacall et Humphrey Bogart partageant une cigarette dans Le port de l'angoisse. La cigarette qui s'est développée aussi considérablement grâce au cinéma et au modèle que donnaient les acteurs fumant des cigarettes dans leurs films.
Ah bah bien sûr, hein. On a entendu tout à l'heure Michel Simon faire la publicité pour la cigarette, mais tous les acteurs français se sont mis eux aussi à faire une telle publicité. Jean Gabin était un accro des gitanes, par exemple. Et il était ensuite passé au Craven A pendant la guerre, parce que les Craven A, c'était des cigarettes anglaises. Donc, comme il était résistant, il se devait en quelque sorte de passer aux alliés. Et puis, ce sont surtout les Américains, effectivement, qui vont montrer l'exemple, les acteurs américains qui vont se mettre à parader à l'écran avec leurs cigarettes à la main, à la bouche, partout. La cigarette va vraiment envahir les écrans américains. Et on sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma américain va enfoncer de manière décisive peut-être, le cinéma français.
Et la pub, hein, vous dites que si c'est la France qui a inventé la cigarette industrielle, c'est l'Amérique qui invente la publicité de la cigarette.
Alors, la publicité, oui, dès la fin du 19e siècle, on voit les premières publicités américaines de cigarettes. En revanche, l'État français, lui, est plus réticent. Il n'a pas cette habitude culturelle, en quelque sorte, de la réclame, voire même ou de la publicité.
Puis il a le monopole.
Oui, il a le monopole, donc il est tranquille. Seulement, après la Première Guerre mondiale, l'État a besoin d'argent. Et un bon moyen, soufflé d'ailleurs par l'industriel André Citroën, c'est de lancer des campagnes publicitaires de cigarettes. Donc, à partir de 1925, l'État français va systématiquement pousser à fumer par le biais de la publicité.
Y compris d'ailleurs pour rassurer ceux qui commencent à redouter la nocivité de la cigarette, en faisant par exemple appel à de soi-disant médecins. Écoutons ce reportage réalisé en 1961 par Paris Inter.
Nous sommes dans un centre médical parisien dans le service de cardiologie. Mais après avoir entendu ce tableau du rôle néfaste du tabac, il faudrait penser que tout le monde devrait s'interdire de fumer. Or, je crois qu'on ne doit pas être aussi sévère, si draconien, docteur.
Je suis absolument de votre avis et je ne voudrais surtout pas donner l'impression que la plupart des gens doivent arrêter de fumer. C'est absolument faux. Le tabac est un plaisir. Le fait de fumer est un plaisir dans l'existence. Il est certain que le tabac a un effet de stimulation psychologique qui est souvent excellent et véritablement un effet quelquefois apaisant chez d'autres. Et il serait désastreux d'interdire de fumer à la plupart des gens, alors que, j'insiste sur ce point, la plupart des gens peuvent parfaitement fumer sans aucun inconvénient, sans aucun ennui.
Because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. See how Camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be.
Je suis amoureux d'une cigarette. Toute la sainte journée, elle me colle au bec. Elle a la rondeur d'un sein, qu'on mord ou qu'on tête. Et Jenny, y aura une taf pour toi si tu penses à mon paquet de gris. Oh, Magne-toi car j'ai bientôt fini de tirer sur ce satané vieux mégot.
Et c'était Higelin en 1974 défendant la cigarette comme le docteur qu'on entendait dans l'archive précédente. À ce moment-là encore, on est déjà au courant des dangers de la cigarette. Et depuis très longtemps, Didier Nourisson, vous dites que c'est dès le 19e siècle qu'un docteur, un professeur Percy commence à parler des dangers, notamment du cancer du poumon.
Oui, alors disons qu'on a commencé à suspecter, j'allais dire scientifiquement, le tabac comme nuisant à la santé dès le début du 19e siècle avec la découverte de la nicotine dans le tabac, dont on a vu que c'était un danger redoutable au milieu du 19e siècle, que c'était un poison terrifiant. Et puis on a, dès le milieu du 19e siècle, effectivement, commencé à s'apercevoir que le tabac fait tousser, que le tabac fumé provoque des maladies, voire des maladies mentales. On en rajoute un petit peu, d'ailleurs. On dit que le tabac rend fou. Et puis on va délivrer en quelque sorte une ordonnance de danger public par rapport au tabac progressivement. Et c'est dès les années 1870 qu'on voit naître la première association contre le tabac en France.
En France, cela dit, la France a beaucoup de retard. En fait, la lutte contre le tabac, l'antitabagisme, il apparaît longtemps avant la France. Il apparaît surtout aux États-Unis.
Oui.
C'est là que ça commence. La France a pris beaucoup de retard dans ce domaine.
Oui et non, parce que les Américains, certes, fumaient beaucoup, mais ils n'ont pas eu cette précaution, du moins au temps du XVIIIe siècle, où le tabac rapportait si gros aux Américains. Alors, en revanche, les Français vont donc se mettre à détecter en quelque sorte les dangers du tabac. Et il faudra attendre quand même la deuxième moitié du XXe siècle pour voir le corps médical dans son ensemble, dont on a vu les réticences par rapport aux méfaits du tabac, pour voir le corps médical dans son ensemble, donc prendre feu et flamme, si j'ose dire, contre la cigarette. La première thèse de médecine datant de 1951 et s'intitulant « Le tabagisme en France ».
Oui, mais les mesures elles-mêmes sont assez tardives, vous les rappelez, ça consiste à, bien entendu, augmenter les prix. La première loi anti-tabac, en fait, c'est la loi Veil en 1976. Simone Veil, qui était une fumeuse de cigarettes, qui prend cette mesure interdisant, d'abord, on commence à s'attaquer à la pub.
Alors, les hommes politiques ont beaucoup fumé, Simone Veil, Jacques Chirac et tant d'autres. Et puis, ils sont devenus progressivement, eux aussi, des non-fumeurs, voire des anti-fumeurs, progressivement. Et Simone Veil a montré l'exemple en 1976, effectivement, en faisant paraître cette loi, donc la première loi en France contre la publicité tabagique.
Avant la loi Evin, donc votée en 1991, beaucoup plus radicale encore, surtout lorsqu'elle entre en application quelques mois plus tard. France Inter, Simon Tivol, le 30 avril 1992.
Le journal Simon Tivol.
Après l'augmentation de 15% du prix du tabac, voilà le deuxième volet anti-fumeur. Le ministère de la Santé a rendu public hier soir le décret d'application de la loi Evin, qui sera publié dans quelques jours au journal officiel. Désormais, il sera interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. Dans les restaurants, il devra y avoir désormais des zones signalées, mais pas forcément des zones séparées. En fait, c'est au patron du restaurant de faire en sorte que les non-fumeurs soient le moins possible incommodés. Sur le lieu de travail, c'est plus compliqué. Plus question d'en griller une dans les salles de réunion, les locaux d'accueil, les restaurants collectifs et même dans les locaux sanitaires. Bref, il faudra fumer dans des espaces spécifiques devant répondre à des normes de ventilation précises.
Et c'était en 1992. Le fumeur devient alors un véritable paria, Didier Nourisson. Il n'est plus l'incarnation de la virilité comme du temps de Humphrey Bogart ou encore de ce fameux cow-boy Marlboro qui en plus, dont on apprend qu'il meurt d'un cancer du poumon en 92, l'année de l'application de la loi Evin.
« Bob, j'ai un cancer hein, », dit finalement le cow-boy avant, de Marlboro avant de mourir. « Bob, j'ai un cancer », et effectivement, la loi Evin va être un coup de massue pour l'industrie cigarettière, puisqu'elle va être assez sévère pour interdire le tabac dans de multiples lieux et surtout dans la publicité, dont on pense que la publicité est un véhicule formidable pour la consommation. De plus, c'est à ce moment-là qu'on commence à former aussi, à éduquer la population et les jeunes à des attitudes et à des comportements non tabagiques, voire anti-tabagiques.
Avec des moyens, il faut bien le dire, parfois un petit peu ridicules. Par exemple, Lucky Luke cesse de fumer sa cigarette. Le voilà qui mâche un fétu de paille. On retire de la photo de Malraux sur un timbre, on retire le mégot qu'il avait en permanence près, sur la bouche. C'est justement la Poste qui fait ça. Et Sartre aussi, qui soudain, sur ses photos, ne fume plus alors qu'il fumait comme un sapeur.
Oui, disons que très vite, il va y avoir des abus de l'antitabagisme, comme il y avait sûrement des abus du tabagisme. Et effectivement, cela touche tout le monde et notamment les personnes les plus médiatisées, donc les stars. Et on pense dernièrement, encore plus dernièrement que cela, à Audrey Tautou qui... empruntant le personnage de Coco Chanel, figurait sur son affiche, l'affiche du film, avec une cigarette à la bouche. Alors ça fait toute une histoire, et finalement on a rétabli en quelque sorte la cigarette de Coco Tautou Chanel.
Apparemment les effets quand même ont été relativement satisfaisants, la consommation a baissé, encore qu'elle reste importante, sauf dans les pays du tiers-monde, enfin les pays en voie de développement ou les pays comme la Chine, où la consommation explose. En fait, les producteurs sont tournés vers d'autres pays.
Ah oui, maintenant on peut dire qu'il y a une belle envolée mondiale de la cigarette. Hein, si dans nos pays européens, mais un peu déclinants, on va dire, elle s'évapore, cette cigarette, dans le reste du monde, elle se développe de manière considérable. Et le premier marché mondial de la cigarette, on n'en doutera pas, c'est évidemment la Chine.
Est-ce qu'on peut dire que, en tout cas en Europe, puisque celle se développe dans d'autres pays, c'est la fin de la cigarette, que la dernière cigarette est proche?
Eh bien,
vous semblez dire que non.
Je pense que la cigarette est partout. Comme jamais, elle est souvent à la main, souvent à l'oreille, souvent à la bouche, mais elle est encore plus dans la rue, elle est encore plus dans les poches des fumeurs, mais aussi elle est sous forme de mégot, elle est dans les têtes de manière tout à fait considérable, et je pense qu'elle continue, elle continuera à faire fantasmer pas mal d'hommes et de femmes.
Et elle est dans votre histoire de la cigarette, ça s'appelle « Cigarette, histoire d'une allumeuse », un livre dont je recommande la lecture et qui a été publié chez Payot. Merci Didier Nourisson. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. 1492, Christophe Colomb de Ridley Scott, disponible en DVD chez TF1 Vidéo. « Thank you for smoking » de Jason Reitman, disponible en DVD chez Avanti Distribution. Et « Le port de l'angoisse » de Howard Hawks, publié en DVD chez Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Gadan et Benjamin de la Gatinée, documentation et archivina Camille Pouc-Jalaguier, Frédéric Martin et Franck Oliva, une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, Suez 1956, la guerre la plus courte du XXe siècle.